Salut, ici André Roy. Cette semaine et les deux suivantes, je vous propose une série de trois émissions consacrées à l'un des plus formidables noms de la chanson française. Une fabuleuse et prolifique compositrice, une immense interprète puisant à l'humour, à l'amour et à l'engagement. Une auteure à 16 heures qui sait écrire les mots qui touchent. Bref, une artiste hors norme à l'affiche de nos trois prochains programmes. Un échange téléphonique en confidence et en musique avec la grande Marie-Paul Belle.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Marie-Paul Belle. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message. Je vous rappellerai dès que possible. Au revoir, bonne journée et à bientôt.
Bonjour Marie-Paul, André Roy de Radio VM au Québec. J'ai vu avec joie que vous étiez de retour sur la scène de l'Olympia de Paris au printemps et ça m'a rendu très nostalgique de ce dernier tour de chant que vous présentiez au Francophonie de Montréal il y a quelques années. J'ai donc revisité avec bonheur vos 5 décennies de carrière sur la 20aine d'albums que vous avez produits en studio sur scène. Tant de formidables chansons, et pas juste les plus célèbres, ni les plus drôles, mais aussi combien de titres bouleversants, certains injustement méconnus. Alors, j'aurais très envie de partager mon plaisir et toute cette beauté avec mes auditeurs, et je vous propose de nous retrouver par-delà l'océan, par téléphone, pour un entretien autour de votre vie, de votre carrière, de votre œuvre. Mais je ne sais pas quoi dire pour vous convaincre. Vous savez, au Québec, comme dans toute la francophonie et chez les amateurs du genre à travers le monde entier, Marie-Paul Belle, c'est la plus belle époque de la grande chanson française. C'est la femme de scène éblouissante, c'est l'amoureuse au grand jour, celle qui n'est pas parisienne ou si peu, celle du Café Renard, celle qui veut pleurer comme Soraya. C'est aussi toutes ces lettres auxquelles on ne répond pas et la témoin lumineuse d'une Barbara, celle qui chante encore, dit « Quand reviendras-tu ?» Il y a tant et tant de choses à connaître encore de vous, tant de mots et de musique à réentendre de votre voix. Marie-Paul Belle, j'attends votre appel. À qui chante au bout du fil cette semaine? Marie-Paul Belle. Bonjour Marie-Paul Belle.
Bonjour André.
C'est un grand bonheur, un privilège de vous avoir au bout du fil aujourd'hui. On aurait bien voulu être à l'Olympia en février dernier, où pendant 6 soirs, vous étiez de retour dans le théâtre mythique, en première partie de votre ami Serge Lama. Ça a été un moment d'émotion particulière pour vous, je suppose.
Ah oui, c'était extraordinaire, parce que en fait, j'ai accepté cette invitation de Serge pour son anniversaire, parce que son anniversaire est le 11 février, et autour de son anniversaire, tous les ans, il est sur scène. Donc là, c'était à l'Olympia, je pense que l'année dernière aussi. Et donc, il m'a demandé de venir chanter dans sa première partie. Et donc, j'ai fait la première partie de son spectacle. Et c'était une grande émotion parce que je n'avais pas chanté à l'Olympia depuis 2008, où j'avais fêté mes 30 ans de scène. Donc, oui. Et puis, je n'ai que des bons souvenirs dans cette salle. Elle est magique et on sent toutes les âmes des personnes qui sont venues chanter. Donc, c'était très, très émouvant. En plus, je n'avais pas partagé l'affiche, la même affiche que Serge Lama depuis 37 ans. On est amis depuis 43 ans. Donc, c'était des retrouvailles extrêmement émouvantes. Le jour de son anniversaire, il m'a demandé de chanter tout particulièrement pour lui une chanson que Françoise Malé-Joris et Michel Grisolia avaient écrite, qui s'appelle « Celui » et qui parle de notre amitié. Enfin, de l'amitié d'amour, si vous voulez, qui nous lie depuis toutes ces années. Et moi, je ne l'avais pas chanté depuis toutes ces années, donc j'ai improvisé. Je ne savais même pas, je ne me souvenais plus des paroles, mais il avait prévu le coup, il les avait fait taper sur une feuille. Ils ont tiré le piano sur scène et j'ai dû m'exécuter. Et heureusement, je n'ai pas exécuté la chanson, ça s'est très bien passé. Tous les gens pleuraient, on se serrait tous dans les bras, c'était magique.
Oui, on a vu cette vidéo, c'était très très émouvant, effectivement.
trop compter. Celui qui ne m'a jamais embrassé, m'a plus donné, m'a plus appris que ceux qui m'ont trouvé jolie. Offert leur cœur, celui qui ne m'a jamais fait l'amour, m'a mieux comprise et mieux aidée que toi qui prétendais m'aimer. Jardin suspendu à la beauté de ses mains nues. Il n'est pas de plus pur écrin que ses mains qui n'exigeaient rien. Regardait pas mes yeux, mais le monde autour de nous deux m'a fait voir qu'il est merveilleux. Les solitaires, les errants, celui qui ne m'a jamais possédé, qui n'a pas voulu m'enfermer, pour qui l'amour est liberté. Aider que toi qui prétendais m'aimer.
Vous étiez le cadeau de Serge Lama et vous étiez le cadeau pour tout un public qui vous retrouvait aussi.
Écoutez, c'était lui qui me faisait un cadeau, c'est ce que je lui ai dit, parce que c'était tellement d'émotions. Oui, c'est vrai que je suis très peu médiatisée en France, parce que je n'ai pas sorti d'album depuis 2011, et même quand cet album est sorti, il y a eu très peu de promotion. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes, du public et même des médias qui pensent que j'ai arrêté de chanter ou que je suis morte. Quelquefois, ça me fait rire, je réponds non, non, je suis toujours vivante. Et j'ai même de l'énergie encore à revendre. Oui. Et donc, c'était très émouvant parce que il y avait même des personnes, comme ça s'est décidé au dernier moment, il y avait même des personnes qui venaient voir Serge, qui avaient pris leur place pour ce spectacle depuis très longtemps et qui n'étaient pas au courant que j'étais dans le même spectacle. Et qui l'ont vu quand ils ont vu mon nom sur le fronton de l'Olympia, ou alors même quelquefois, mais ils regardaient pas, ils disaient, oh, quelle bonne surprise. Après, par les réseaux sociaux, j'ai reçu reçu des tas de messages. C'était formidable, un élan d'amour formidable. Tout le monde disait, oh, c'est super, vous nous manquez, revenez, tout ça. Même des gens du Québec, beaucoup, parce que dans les pays francophones, les gens m'aiment bien, donc ça m'a fait très plaisir.
J'ai connu des îles dans le monde entier, Jacques, Alain ou Gilles, je les ai quittés. J'ai connu des havres dans le monde entier, mais ce qui me navre, c'est de m'attacher. J'ai l'âme à la vague, j'ai l'âme qui vogue, avide et le drague, c'est comme une drogue. J'ai l'âme à la vague, j'ai l'âme qui vogue, avide et le drague, c'est comme une drogue. Plus rien ne m'exalte, j'ai tant voyagé. J'ai l'âme à la vague, j'ai l'âme qui vogue, avide, elle drague, c'est comme une drogue. J'ai l'âme à la vague, j'ai l'âme qui vogue, avide, elle drague, c'est comme une drogue. J'ai connu des joies dans le monde entier, des hommes et des fois, j'ai continué, j'ai connu des nuits dans le monde entier, un jour c'est fini, on en a assez. J'ai l'âme à la vague, j'ai l'âme qui vogue, avide et le drague, c'est comme une drogue. J'ai l'âme à la vague, j'ai l'âme qui vogue, avide et le drague, c'est comme une drogue. Des peines dans le monde entier, ce sont des rengaines qu'il faut oublier. J'ai connu des larmes dans le monde entier, j'ai posé les armes, viennent les regrets. J'ai l'âme à la mer, j'ai l'âme à la mort, et je désespère de trouver un port. J'ai l'âme à la mer, j'ai l'âme à la mort, et je désespère.
Sur des paroles de Françoise Malet-Joris et de Michel Grisolia, une musique de Marie-Paul Bell. Justement, je suis au Québec, moi, aujourd'hui, et vous êtes à Paris, sur les hauteurs de Montmartre.
Oui.
Vous avez beaucoup chanté que vous n'étiez pas parisienne, mais pour le coup, là, vous l'êtes vraiment devenue.
Ah oui, je ne l'étais pas quand j'ai chanté la chanson, mais je le suis devenue, et je vais vous dire, j'aime tellement cette ville. C'est, pour moi, avec Venise et Saint-Pétersbourg, j'ai voyagé beaucoup, ce sont les trois plus belles villes du monde. Et vraiment, je pense que peut-être Paris... Il y a Rome aussi, mais enfin, Paris m'enchante à chaque fois que je me promène. Bon, j'ai la chance d'habiter Montmartre pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que je vais peut-être déménager, mais j'ai une vue extraordinaire. J'ai tout Paris à mes pieds. De l'autre côté, j'ai la basilique. Je suis contre la basilique, mais même si on se promène le long de la Seine, quand la nuit, quand on voit la conciergerie illuminée, il y a une magie, un romantisme et une multiplicité des cultures, c'est vraiment formidable comme ville, j'adore.
En parlant de cette chanson, Je ne suis pas parisienne, en vous apportant le succès, elle vous a aussi joué un vilain tour, elle a souvent occulté la part tendre, nostalgique, parfois grave de votre répertoire, comme si on retenait uniquement votre fantaisie, votre joie communicative sur scène, au détriment du reste.
Mais oui, la preuve en est, vous voyez la chanson que j'ai chantée le jour de l'anniversaire de Serge, dont je vous parlais tout à l'heure, chanson « Celui », elle est sur le même album que La Parisienne, c'est-à-dire qu'elle est sortie en 76. Et les gens la découvrent aujourd'hui parce que il n'y a que La Parisienne qui a été programmée sur toutes les radios. Et donc, on occultait les autres chansons. On a un peu passé « Quand nous serons amis », qui est une chanson tendre aussi. Mais c'est vrai que... Et c'est ce qui a fait aussi que... peut-être ma carrière a duré, mais peut-être aussi qu'elle n'a pas été aussi flamboyante qu'elle aurait pu l'être, parce que, vous savez, à cette époque, on nous redemandait d'album en album d'enfoncer le clou et de refaire des chansons un peu à l'identique de qui avait marché.
Oui,
et donc, on m'a redemandé plusieurs fois de refaire une autre parisienne, hein, dans un autre genre, ouais, de style sautillant et enlevé et dans l'énergie. Et moi, presque par rébellion, j'ai toujours pris le contre-courant de l'image que j'avais. Donc, je me suis un peu cassée mon identité à chaque fois, vous voyez. Mmh. Donc, c'était plus long, mais finalement, je suis heureuse parce que dans tous mes tours de chant maintenant, j'utilise ces ruptures et c'est très agréable.
C'est vrai que j'étais un peu en retard, les hommes aiment bien les femmes en retard. Je suis entrée dans le café que l'agence m'avait indiqué, qu'il m'attendait au bout du bar, recroquevillé dans son costard. L'annonce parlait d'un hidalgo, j'avais dû me tromper de bistrot. Allons, tant pis, je cours ma chance. Car il y a si peu d'hommes en France. J'ai la clé, j'ai l'argent, j'ai le sourire. C'est chez moi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai le porto, j'ai le phono, j'ai les draps. J'ai quelque chose à vous dire, venez chez moi. J'ai le parfum, j'ai le satin, j'ai les roses. J'ai l'adresse de l'agence Viande. De mon cœur, je vous attends depuis toujours, et particulièrement depuis 15 jours. La seconde fois, j'étais en avance, après l'engueulade de l'agence, je me suis assise dans le square, mais le nouveau était en retard. Quand il a enjambé la grille, j'ai cru voir venir un gorille. Il m'a dit bonjour, mademoiselle, c'est pas un cheveu, c'est une ficelle qu'il a sur la langue, mais tant pis. Il y a si peu d'hommes aujourd'hui. J'ai la clé, j'ai l'argent, j'ai le sourire. Chez moi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai le porto, j'ai le phono, j'ai les draps. J'ai quelque chose à vous dire, venez chez moi. J'ai le parfum, j'ai le satin, j'ai les roses. Les promesses de l'agence vit en rose. Dans le fond de mon cœur, vous attendez toujours, et particulièrement les 15 jours. Cette agence m'a coûté si cher que j'ai eu besoin de me refaire. Quand on se retrouve sans le sou, on organise ses rendez-vous. J'ai trouvé un endroit sympa entre Madeleine et l'Opéra. Tous les quarts d'heure au même étage, les hommes me demandent en mariage. Il n'y a plus l'agence à déduire. Et les bons hommes ne sont pas pires. J'ai la clé, tu as l'argent, j'ai le sourire. Viens chez moi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai le porto, j'ai le phono, j'ai les draps. J'ai quelque chose à te dire, viens chez moi. J'ai le porto, j'ai le satin, j'ai les roses. Et toi, tu as bien aussi quelque chose. Tu as le physique, tu as le chic, tu as l'allure, tu as l'élan. Et je suis sûr que tu as aussi 500 francs. Ce sera sans nous disputer, oui, ce sera sans nous disputer. Nous nous rejoindrons le matin, moi sans rimmel, toi pas rasé. Et nous nous sentirons très bien, oui, et nous nous sentirons très bien.
sera sans nous disputer. Oui, ce sera sans nous disputer. Nous nous quitterons dans un bar. Moi couche tôt, toi traîne pas. Et nous dirons quelle bonne soirée. Oui, et nous dirons quelle bonne soirée. Accompagné comme il se doit, ce sera sans nous saluer, oui, ce sera sans nous saluer, mais de loin au même restaurant, nous sourirons discrètement, nous serons complices un moment, oui, nous serons complices un moment.
Enregistrée en spectacle qui illustre bien les deux versants drôles ou émouvants de Marie-Paul Bell, toujours sur des paroles de Françoise Malé-Joriste et de Michel Grisolia, la musique de Marie-Paul Bell. Nous avons entendu J'ai la clé et Quand nous serons amis. Dans une lettre qu'il vous écrivait, William Scheller expliquait ainsi « Le public nous veut gens qui rient ou gens qui pleurent, mais jamais les deux à la fois. » Moi, en préparant cette émission, je vous ai avoué, Marie-Paul, que j'avais envie d'y explorer davantage votre répertoire de chansons tendres, engagées, plutôt que votre côté fantaisiste, même s'il est en passant miraculeux. J'espère que vous m'en voudrez pas pour ça.
Non, mais écoutez, non seulement je vous en veux pas, mais ça me fait plaisir parce que c'est le côté que je préfère aussi de moi-même. Dans la vie, je suis assez nostalgique et angoissée, mais dès que je suis un peu en société, je surmonte ça par le rire et l'humour.
Ouais.
Donc sur la scène, c'est un peu, c'est, si vous voulez, c'est ma profonde intériorité qui se révèle. Donc moi j'ai toujours eu une attirance pour les chansons nostalgiques, tendres et engagées aussi, parce que comme le disait Julien Clerc, une chanson doit être utile.
Oui,
donc c'est intéressant si elle peut au moins faire un peu réfléchir.
Seul il joue au jardin, il est insouciant, ce n'est qu'un enfant. Il s'élance en courant, referme la main, la mouche est dedans. Il joue, il rit, la mouche est à lui, et il lui arrache les ailes, il est si petit. Toi qui lis les journaux, qui as des idées, sais-tu regarder ces choses qui sont si naturelles, qu'on oublie souvent qu'elles sont cruelles. Dans le grand camion noir, les chevaux finis ont déjà compris. C'est vers les abattoirs que l'homme insouciant les mène ce soir. C'est son métier, il n'est pas méchant,
mais il frappe, il crie en les poussant dans la nuit. Toi qui veux la justice et qu'elle se bâtisse dans tous les pays, ces choses qui sont si naturelles, vois-tu seulement combien c'est pareil. Le chômeur humilié et qu'on ne plaint pas tant qu'il peut manger. Le prisonnier perdu par des mots savants qui ne comprend plus. On a pitié, on en parle un peu et ça nous rassure, on veut croire que ça va mieux. Ce cri d'enfant battu, on l'a entendu mais on n'a rien dit. Ce vieux dans un couloir sur de vieux journaux qui a peur du noir. Ils sont si près qu'on ne les voit pas. Et puis on s'en va pour pleurer au cinéma. C'est une même guerre, une même misère. On les voit partout, ces choses qui sont si naturelles qu'on oublie souvent qu'elles sont cruelles. Seul il joue au jardin, il est insouciant. Ce n'est qu'un enfant. Il s'élance en courant, referme la main, la mouche est dedans. Il joue, il rit, la mouche est à lui. Et il lui arrache les ailes, il est si petit.
Chanson immense du répertoire de Marie-Paul Bell, L'enfant et la mouche. Encore une fois, la plume inspirée de Françoise Mallet-Joris, Michel Grisolia et la musique de Marie-Paul Bell. Ce sont deux facettes chez vous qui se sont toujours côtoyées, je crois. Vous venez d'un milieu bourgeois, austère à quelques égards, mais déjà jeune, vous saviez faire rire autour de vous, dans la famille, avec vos copains.
Oui, j'ai été très dissipée au lycée. J'avais des mauvaises notes, et puis mais j'étais le pitre de la classe, quoi. Comme j'avais des facilités, je passais toujours dans la classe supérieure, ric-rac, quoi. Je veux dire, je m'arrangeais pour travailler le moins possible, mais ce qui m'amusait, ce qui comptait pour moi, c'était de faire rire les copains. Comme j'avais des complexes physiques, je ne me trouvais pas jolie et que je voyais à un moment de l'adolescence que toutes mes copines avaient des petits flirts, moi j'en avais pas, je me disais ma façon de séduire, c'est de faire de la musique et de faire rire, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est drôle parce que j'ai retrouvé des années plus tard des bulletins de notes, alors je voyais des commentaires ou de profs ou d'élèves qui disaient merci de nous avoir t'en fait rire, donc au lieu de dire
c'est formidable ça.
Quand je pesais 120 kilogrammes comme un éléphant, j'occupais, c'était tout un drame, trois places dans le métro. Quand je prenais une caravelle, ça penchait d'un côté. Quand je montais sur la tour Eiffel, je la sentais. Mais doublement, on s'est réduit dans.
Chanson en fanfare, dans un arrangement magnifique d'Hervé Roy, Mes bourrelets d'antan de Michel Grisolliam, Françoise Malé-Joris, sur une musique de Marie-Paul Bell. Vous aviez un papa qui travaillait très fort, il était médecin. Vous dites qu'il était assez absent, mais en même temps rassurant, généreux et bon.
Oui, c'est vrai. Ah, je me souvenais pas que j'avais dit ça, mais c'est la vérité. Il était très rassurant dès qu'il sortait de la maison. Parce que c'était un homme très angoissé pour les siens et pour sa famille. Alors quand maman faisait le marché et qu'on lui disait « Oh, vous savez, votre mari, mais qu'est-ce qu'il est rassurant, qu'est-ce qu'il est gentil, et mon Dieu, il nous sécurise. » Et alors elle répondait toujours « Nous ne connaissons pas le même homme.
» Il paraît que lorsque vous étiez adolescente, que vous invitiez vos amis dans votre chambre, il y avait un piano dans votre chambre et que vous faisiez jouer la musique, l'époque, le rock and roll. Lui avait son cabinet de médecin dans la même maison. Il entrait dans votre chambre avec le stéthoscope autour du cou en disant moins fort, j'entends pas les battements de cœur de mes patients.
Oui, complètement, c'est vrai, tout à fait juste. Et j'ai même écrit une chanson qui dit cette phrase. Il écoutait le cœur des gens et il y avait mon piano dedans.
Ah, c'est sûr, magnifique.
Mais je l'ai jamais chantée. Elle est comme beaucoup de mes chansons d'ailleurs, elle est dans des tiroirs ou dans mon ordinateur. Mais peut-être un jour, je les chanterai toutes ces chansons qui sont dans mon cœur et qui me racontent un peu plus précisément.
Votre père étant absorbé par son travail, c'était votre maman qui devait cumuler les rôles de père, de mère. Vous dites qui servait de repère et celle qui disait non.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, elle servait de père et de mère. Et quand elle est partie, c'est pour ça que ça a été une telle cassure, parce que on perdait tous nos repères. Moi, je veux dire, quand maman est partie, j'avais 23 ans, j'étais en faculté de lettres à Nice, et je savais rien faire, elle nous faisait tout, elle nous réveillait par des baisers comme si on était des petits-enfants, en disant ça y est, le petit-déjeuner est prêt, alors qu'on allait à la fac, qu'on était indépendants, mais je veux dire, on était des bébés, quoi, je savais pas faire cuire un beefsteak. Après, j'ai dû apprendre la vie, et ça a été une très très grosse cassure.
Je me souviens, le dé à coudre fuyait tes doigts malicieux, les lunettes fuyaient tes yeux, les objets semblaient se dissoudre quand tu les appelais. Je crois, ils revenaient autour de toi quand tu les appelais. Je crois, ils revenaient autour de toi. Les petits dieux de la maison souriaient en te voyant faire avec amour et déraison si maladroitement ma mère. Au long des jours, au long des mois, t'usant le cœur, t'usant les doigts à des besognes ménagères comme un ange un peu maladroit. Je me souviens, dans le potage, le sel était trop abondant, ça brûlait mystérieusement. Nous, cependant, nous restions sages, car ton sourire était si doux que nous ne goûtions rien du tout. Car ton sourire était si doux que nous ne goûtions rien du tout. Les petits dieux de la maison souriaient en te voyant faire avec amour et déraison si maladroitement ma mère.
usant les doigts à des besognes ménagères, comme un ange un peu maladroit. Je me souviens de notre enfance, on disait comme ils sont nombreux sur notre appétit monstrueux. Tu te lamentais, il me semble, mais à table vite attendrie, tu invitais tous nos amis, mais à table vite attendrie, tu invitais tous nos amis. Les petits dieux de la maison un jour ont choisi de se taire, d'autres mains rangent le salon. Mais où est ton amour, ma mère? Devant ce silence et ce froid, ton ombre m'apparaît parfois, cherchant s'il n'y a rien à faire, comme un ange un peu maladroit.
Bouleversante et autobiographique, Les petits dieux de la maison, écrite à trois cœurs et six mains, Françoise Malégeris, Michel Grisolia et Marie-Paul Bell pour la musique. Vous dites, Marie-Paul, que malgré qu'elle vous entourait de tout cet amour, de ses soins, c'était pas une femme qui débordait d'affection, par exemple.
C'est-à-dire que, vous savez, à cette époque, on ne s'embrassait pas comme aujourd'hui, on ne disait pas « je t'aime », on se disait « bonjour » le matin, « au revoir » le soir, on s'embrassait, mais on n'était pas démonstratif dans l'amour. En plus, moi, j'étais maman était d'origine corse, donc j'étais élevée par un matriarcat corse très fort, catholique pratiquant, donc un peu rigide.
Oui.
Donc, on était dans l'action, je vais dire, et puis moins dans le sentiment, mais le sentiment était bien sûr complètement sous-jacent, mais on ne se faisait pas de câlins, par exemple. Je n'ai pas le souvenir de câlins comme on se fait aujourd'hui, même entre adolescents et entre adultes. On ne faisait pas ça à l'époque.
Et c'est pour ça, vous dites, au départ de votre mère, on vous a dit que vous ne deviez pas montrer votre chagrin. Et vous dites encore, si l'on ne pleure pas le jour de sa mère, quand pleure-t-on?
Ben oui, c'est vrai. Et même j'ai joué du piano parce que j'arrivais pas, je pleurais, mais j'arrivais pas à m'exprimer autrement que par la musique, donc je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai joué du piano, et les voisins sont descendus pour dire que c'était indécent, comment, et heureusement mon père a très bien répondu, il a dit elle exprime son chagrin de cette façon, et il les a renvoyés dans leurs appartements. Mais oui, on devait être digne toujours. Quand maman est partie, ma grand-mère, sa mère avait 82 ans, et elle n'a pas dit un mot. La seule phrase qu'elle a dit à un moment donné, c'est « on ne peut plus rien pour les morts, occupons-nous des vivants ».
Oui.
Donc, il fallait être à la hauteur, hein, quand on a des grands-parents, des modèles comme ça.
Oui.
Quand on est pauvre et qu'on n'a rien, on n'a pas même son chagrin. C'est un chagrin sans élégance, sans grandeur et sans importance. Ma peine a son horaire, ma peine pointe à l'usine. Elle n'a pas de mystère comme dans les magazines. Je veux pleurer comme Soraya, je veux pleurer comme une princesse. Je veux pleurer avec noblesse, pas dans la soupe mais dans la soie. Je veux pleurer dans un décor, un chagrin plus grand que ma vie, un vrai chagrin qui passe en vie. Je veux pleurer comme Listello, je veux pleurer comme Soraya, je veux pleurer comme Soraya. Je veux m'offrir ça quand on en a. pas les moyens, on ne profite pas de son chagrin, on n'a pas le temps d'en faire le tour, les pommes de terre brûlent dans le four, on ne s'y habitue pas, ça porte sur le foie, c'est de la peine à dessous, on n'en sent pas le goût. Je veux pleurer comme Soraya, des larmes qu'on prend en photo, pleurer sans rhume de cerveau, des larmes qui ne défigurent pas. Je ne veux plus de chagrin à la gomme, de chagrin payable par traite, j'en veux d'un coup jusqu'à la retraite. Je veux pleurer comme la bégone, je veux pleurer. Pleurer comme Soraya, je veux pleurer sans économie, qu'une fois au moins dans ma vie je puisse me dire que je ne compte pas. Je veux pleurer comme pour une fête où on fout en l'air ses richesses. Je veux pleurer comme une princesse, je veux pleurer comme Margaret, je veux pleurer comme Soraya, je veux pleurer.
On n'y échappe pas, comme tous les grands succès de cette époque de sa carrière. « Je veux pleurer comme Soraya » était écrite par Michel Grisolia, Françoise Malais-Joris, avec la musique magnifique de Marie-Paul Bell. Et votre maman, qui était une femme au foyer, mais qui avait fait des études quand même importantes, elle était une musicienne avant de faire des études de médecine, et c'est elle qui vous a incité à suivre des cours de piano, qui vous a montré au tout départ.
Oui, oui, elle avait le souvenir... De son temps, si vous voulez, on lui avait appris le piano d'une façon très brutale. Enfin, je veux dire, avec une gomme sur le dos de la main pour faire les passages de pouce. Si la gomme tombait, elle avait des coups de règle sur les mains, etc. Donc, elle avait souffert physiquement et d'une façon intense de cet apprentissage du piano. Et elle voulait que le piano soit pour moi l'instrument et la musique soit pour moi... que du plaisir, que de la joie, qu'une façon formidable de s'échapper des mauvaises choses de la vie, une compensation extraordinaire. Donc, si vous voulez, à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, je ne savais pas lire, j'étais toute petite, bien sûr, j'étais encore un bébé, elle a commencé à me montrer les positions des mains sur le clavier, à me montrer les notes de couleur, puisque je savais pas lire le do jaune, le ré bleu, le mi orange, etc. Et après, j'ai eu un professeur de piano particulier. J'ai jamais fait le conservatoire, ce qui m'a posé des problèmes après, parce que j'avais beaucoup de complexes par rapport aux musiciens, qui m'ont rassurée, heureusement. Et le premier rendez-vous avec mon professeur de piano, elle a dit, je veux vous demande une seule chose, c'est de ne jamais gronder ma fille si elle ne travaille pas. Même si elle travaille mal. Je veux toujours que la musique et l'instrument soient un plaisir pour elle.
Ouais.
Donc, j'en foutais pas une rame. Hein, comme j'étais douée, je regardais où le prof mettait ses mains et puis j'essayais de rejouer d'oreille. Et j'ai eu la chance d'être douée, mais en même temps la malchance parce que j'ai pas beaucoup travaillé mon piano comme j'aurais pu le faire.
Dans votre chanson « L'impromptu de Schubert », une chanson autobiographique co-écrite avec Françoise Malais-Joris, vous évoquez quelques fausses notes, mais en même temps toute la tendresse de ces moments où vous jouiez avec votre mère.
Ah oui, oui, ça c'était extraordinaire, parce que notre appartement était fait de telle façon, puisqu'il y avait le cabinet de mon père dans le même appartement, il était fait de telle façon que la cuisine était de l'autre côté d'un couloir qui séparait tout, dans toute la longueur l'appartement. Donc toute ma jeunesse et toute mon enfance, pour passer d'une pièce à l'autre, j'ai dû regarder dans le couloir s'il y avait des patients ou pas, parce qu'on ne devait pas se montrer. Donc entre midi et 2 heures, quand maman faisait la cuisine, le bonheur c'était que les portes reste ouverte. Et donc, elle faisait la cuisine qui était de l'autre côté de l'appartement par rapport à ma chambre. Et moi, je laissais la porte ouverte et je jouais du piano. Et elle, de la cuisine, en faisant un gratin d'aubergine, par exemple, j'ai ce souvenir-là de l'odeur du gratin d'aubergine. et de sa voix qui dit non, 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 ça va pas là, recommence, non, c'est pas bien, non, bon, je viens, je vais te montrer. Et elle me montrait, puis alors après, je lui demandais de me jouer ou une valse de Brahms ou un nocturne de Chopin.
Il y a une musique, quelquefois, ou une chanson, ou une image, quelquefois, qui vous suit tout au cours d'une vie. Moi, en particulier, dans ma propre vie, j'ai un morceau de musique classique qui me suit depuis que je suis toute petite. C'est un impromptu de Schubert que jouait ma mère, que j'ai essayé de jouer, mais que je ne suis pas arrivée à jouer. Et quand, lorsque j'ai emménagé dans mon nouvel appartement à Paris, ma voisine jouait cet impromptu. Donc je me suis dit que c'était un signe et qu'il fallait que j'écrive une chanson. Et je l'ai écrite. Quand ma mère jouait pour moi les impromptus de Schubert, il lui arrivait souvent de faire un accord à l'enfer. Alors elle riait honteuse en disant je n'ai plus les doigts d'avant. Quant à moi j'étais heureuse, ce qui importe c'est l'instant présent. Quand elle quittait sa cuisine, le tablier sous les seins. Si j'étais d'humeur chagrine, j'en oubliais mes chagrins. Alors quelquefois pour rire, on jouait ensemble à quatre mains. Quand j'y pense, je peux dire que c'était faux, mais que c'était bien. Schubert et ma mère me grondaient, j'aimais ça. Le jazz était déjà en moi, mais ma mère ne comprenait pas. Repartant dans sa cuisine, elle me laissait avec cet air-là, dans l'odeur des aubergines. Petite fille qui n'atteint pas encore le clavier, tu ignores la mélodie, tu l'ignores encore, mais je t'apprendrai. Et quand je jouerai Schubert en m'appliquant de mon mieux, je lirai sur ton visage un grand sourire malicieux. Mes fausses notes, mais ce que je souhaite aujourd'hui, comme tu ne seras pas sotte, c'est que mon amour, tu l'entends aussi. Je peux t'aider de faire de moi de
L'impromptu de Schubert, écrite par Françoise Malé-Joris, musique de Marie-Paul Bell.
J'ai été élevée dans la culture du piano romantique, en fait, de la musique de piano romantique. Et donc, elle jouait vraiment bien du piano. Et moi, si vous voulez, j'ai été éduquée avec ce sens du toucher et du sentiment. On me disait « joue avec sentiment ». Par rapport à ma cousine Germaine, par exemple, qui jouait avec beaucoup de techniques, la technique russe. Et donc, elle avait une dextérité formidable, mais elle avait moins de sentiments. Alors, on nous opposait toujours. Moi, j'avais moins de technique et elle, moins de sentiments.
Et devant le regard ahuri de vos professeurs, vous réarrangiez Chopin déjà à votre âge.
Que je trouvais que ou Schubert ou Chopin ce sont des mélodistes formidables. Donc, si vous voulez, je le syncopais, je faisais une main gauche un peu à la Errol Garner en faisant un accompagnement comme ça d'accord sur tous les temps et à contre-temps à l'afterbeat, donc je veux dire, ça me plaisait de faire ça, ou alors j'essayais de voir si on pouvait mettre une sonate de Beethoven en rock'n'roll, je veux dire...
J'aurais bien voulu entendre ça, oui.
Mais maintenant, on ne fera pas dans le rock'n'roll, on va plutôt ressentir votre approche classique, on dirait presque un leader dans cette chanson fabuleuse « Que tu ne m'aimes plus ».
Que tu ne m'aimes plus, je ne peux pas le croire. C'est comme si le jour ne s'était pas levé, comme si le si notre chambre débouchait sur un quai. Que tu ne m'aimes plus, je ne peux pas le croire. Comme si notre chien m'avait soudain mordu, comme si notre rue assistait à la guerre. C'est le monde à refaire. Que tu ne m'aimes plus, je ne peux pas le croire. C'est comme si la nuit c'était comme un miracle. Comme si mon cœur mort apprenait à marcher. Je ne sais plus marcher. Facile dans ce pays sans ville que tu as déserté. Et je ne peux plus croire qu'un jour tu m'aies aimé.
Pour une dernière fois en cette heure, la parole de Michel Grisodia, Françoise Mallet-Joris sur une musique de Marie-Paul Bell, « Que tu ne m'aimes plus ».
Vous êtes toujours à l'écoute de « Salut, ici André Roy », le premier épisode de « Qui chante au bout du fil » avec Marie-Paul Bell, qui se poursuit après la pause, si vous voulez bien demeurer avec nous.
C'est à l'heure où les harmonicas
avant saluer la nuit, que je fais le point virgule sur moi et sur ma vie. J'ai donné, j'ai pas pris, canevas de ma vie. C'est à l'heure où les marins tatoués font le point sur Bombay que je mets le cap sur mon passé, passé vide à pleurer. J'ai donné, j'ai pas pris, tant pis, canevas de ma vie. C'est à l'heure où le voisin du bas met le cap sur télé que je mets les voiles sur les toits où je voudrais voler. Voler pas vu, pas pris, tant pis, canevas de ma vie. C'est à l'heure où les voiles se posent sur un coin de ma mémoire que je revois le jardin d'une rose que je n'ai pas su voir. J'ai pas su, c'est passé, tant pis, canevas de ma vie. C'est à l'heure où je vois tes cheveux danser sur mon oreiller que je salue les flammes d'un feu venant à ressembler à mes amours finis, tant pis, canevas de ma vie. C'est à l'heure où les harmonicas vont saluer
au microphone André Roy. Voici la deuxième heure de Qui chante au bout du fil avec Marie-Paul Bell. Vous êtes né à Pont-Sainte-Maxence, mais c'est à Nice que vous avez grandi. Cette vie de famille, vous parlez de la grande maison, c'est à Nice, tout ça. Une vie de famille avec vos frères Jean-Michel et Olivier, et plein d'amis, plein de copains aussi.
Oui, oui, c'est ça. J'étais en même temps très seule, et en même temps entourée de copains, de rire, de musique. Maman était quelqu'un qui avait... on le disait tout à l'heure, qui servait de père et de mère et qui avait donc toute l'autorité de la famille. Mais en même temps, c'était quelqu'un de très, très joyeux, qui faisait des gaffes toujours, qui était maladroite, qui renversait des choses. Et elle était très, très amusante, et malgré elle, et en même temps, en le voulant, parce qu'elle avait un esprit de répartie extraordinaire. Elle était... Et j'ai eu longtemps... dans l'oreille, les cascades de rire, et son rire est resté très longtemps dans mon oreille, plus que sa voix.
Mmh.
Et, mais c'était très joyeux, la maison. Il y avait toujours des tas de copains. C'est vrai que quand je suis partie 3 mois après la mort de ma mère à Paris, je veux dire, j'ai changé de vie du tout au tout, et j'ai découvert la vie, en fait, parce que j'étais dans un cocon complètement un peu... en dehors du monde.
À 20 ans, les amis se ressemblent. Quand nous nous retrouvions dans la chambre, ensemble, grappes de raisins, grains d'épines, nous étions amis. Mais la vie nous a désunis, grappes de raisins, nous étions copains. Mais la vie toujours fait son pain comme des épis, nous étions unis. Serrés tout autour de la table, détestable était le vin. C'était un Polonais qui parfois croyait qu'il était Chopin. Et sur un vieux piano, il jouait serait sans fin. Et c'était toi et moi, et nous ne savions même pas nos prénoms. Et c'était toi et moi, et nous ne savions même pas nos prénoms. À 20 ans, on aime la musique. Nous avions des instruments antiques, magiques, grappes de raisins, grains de blé, nous étions liés. La vie nous a désaccordé, grappes de raisins, nous étions copains. Mais la vie toujours fait son pain, comme des épis, nous étions unis. Serrés autour d'une guitare, il s'égare notre refrain. C'était un guitariste ou c'était peut-être un Américain. Est-il parti aux Indes, devenu bouddhiste, je ne sais plus bien. Et sur tes cheveux blonds, je ne pourrais plus mettre aucun prénom. Et sur tes cheveux blonds, je ne pourrais plus mettre aucun prénom. À 20 ans, les amis se confondent. L'un revient quand l'autre vagabonde. Au monde, grappes de raisins, grains serrés, vous vous détachez. Car la vie a plus d'un été, grappes de raisins, nous étions copains. Mais la vie a plus d'un refrain, comme des épis, nous avons mûri. À cette table, on perd sa place, il s'efface notre chagrin. Il s'efface notre chagrin.
Extraite du disque Café Renard, nous avons entendu Grappe de raisin, Michel Grisolia, Françoise Malégeris, musique de Marie-Paul Bell. Et vous vous entendiez très bien avec vos frères Jean-Michel et Olivier?
Oui, mon frère, le plus grand des garçons, a 18 mois de moins que moi. Moi, je suis l'aîné, donc on était comme des jumeaux, si vous voulez. On jouait beaucoup ensemble, on disputait tout le temps comme tous les enfants. Mais on était très, très proches. Et puis le petit dernier, Olivier, est né avec 15 ans de retard derrière nous. Donc c'est un petit post-scriptum dans la famille. Donc tout le monde se moquait de mes parents, comme s'ils n'avaient pas pu faire attention. Et en fait, c'était comme si ce petit enfant avait eu 4 parents. Parce que, je veux dire, maman disait non, s'il voulait quelque chose, alors il allait voir papa qui disait non, il allait voir Jean-Michel ou moi, mais il y avait toujours un sur les 4 qui disait oui. Je l'ai langé, ce petit. C'est comme mon enfant aussi. Et en même temps, maintenant, c'est un homme et il est chanteur, auteur, compositeur. Il fait des très, très belles choses. Et ça me fait drôle de... Parce que oui, c'est comme si j'avais eu un petit bébé à 15 ans, quoi.
À 15 ans, moche. À 18 ans, rien dans les poches. À 20 ans, on monte à Paris pour vivre. On cherche un alibi et on s'angoisse. Puis ça se tasse, on se fait sa place. Si ça n'est pas ce qu'on voulait, tant pis, on raccourcit l'ourlet. On sait déjà que dans la vie, rien n'est parfait. Car déjà l'on regrette le temps sans un copain. Le temps des patins à roulettes, l'âge où l'on s'envole avec, l'âge où l'on s'envole avec, où l'on s'envole avec. Car déjà l'on regrette le temps sans un copec, le temps des patins à roulettes, l'âge où l'on s'envole avec, l'âge où l'on s'envole avec, où l'on s'envole. À 30 ans, on joue au poker avec des copains du métier qu'on voit parce qu'on est obligé pour le standing. On a des toiles dans son living. Un peu plus tard, ta collection pour les impôts sert de caution. C'est l'instant bête où tu te maries. Vite un prénom. Et déjà là.
qu'il s'envole avec. Et déjà l'on achète, sans compter les copecs, de nouveaux patins à roulettes, afin qu'il s'envole avec, afin qu'il s'envole avec, pour qu'il s'envole avec.
Comment s'y faire? La vie se déroule à l'envers. Tout à coup on voit son passé comme un jardin les soirs d'été. Ça te fait un coup. Aux autres tu dis que tu t'en fous, qu'on peut grisonner sans vieillir et que chaque âge a ses plaisirs. Ils font tous comme s'ils te croyaient, mais c'est pas vrai.
Car toujours il regrette le temps sans un copain, le temps des patins à roulettes, l'âge où l'on s'envole avec, l'âge où l'on s'envole avec, où l'on s'envole avec. Car toujours il regrette le temps sans un copain, le temps des patins à roulettes, l'âge où l'on s'envole avec, l'âge où l'on s'envole avec.
Chanson de passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Françoise Malégeris écrivait Patin à roulettes, musique de Marie-Paul Bell. Et vous aviez aussi des amis imaginaires. Sur l'album L'heure d'été, vous signez une très jolie ballade qui rappelle votre amour d'adolescent pour les Beatles. Ça s'appelle J'aimais quatre garçons.
Ah, j'ai adoré ça.
Ça, ils ont eu une influence sur vous, sur votre inspiration musicale ou encore pour la suite de votre vie?
Ah oui, je pense vraiment, parce que j'étais en admiration complète sur les harmonies de leurs chansons. Et puis, je crois que c'est un des premiers concerts que j'ai vu à Nice, au Palais des Expositions à l'époque, et il y avait tous les pompiers avec les lances d'incendie qui nous arrosaient et tout ça, mais j'étais fan absolue. Mais c'était pas tellement le côté twist and shout que j'aimais, c'était le côté Because, avec toutes ces harmonies de voix qui passent d'un demi-ton sur l'autre. J'ai toujours adoré ça. Et la mélodie, évidemment, parce qu'ils ont un sens de la mélodie extraordinaire.
J'aime encore dans mon cœur qui s'étonne un garçon disparu dans l'automne. Et souvent, malgré moi, je fredonne. J'aimais John, j'aimais John, j'aimais John. Et parfois ça remonte à l'école. J'aime encore souvenir qui console. Le même air avec d'autres paroles. J'aimais Paul, j'aimais Paul, j'aimais Paul. Les saisons, les garçons. Ne peut-on les aimer comme on aime la vie entière sans jamais les séparer? J'aime encore d'un cœur adolescent un visage au prénom différent. La chanson s'étrangle dans ma gorge. J'aimais Georges, j'aimais Georges, j'aimais Georges. Les raisons, les maisons diffèrent. J'ai beaucoup voyagé. Ce qui vous suit la vie entière, c'est ce rythme qu'on chantait. Que soient les hasards, cet amour reviendra tôt ou tard. Tendre et fou, triomphant du cafard, Paul et John, George et toi, Ringo Starr. Paul et John, George et toi, Ringo Starr.
Hommage ou clin d'œil aux Beatles, J'aimais quatre garçons sur un texte de Françoise Malé-Joris, la musique signée par Marie-Paul Bell.
Oui, je pense que j'ai été influencée par un mélange très très bizarre de culture de piano romantique classique, de Beatles et de jazz, parce que j'habitais tout près de Juan-les-Pins et que ma tante, la sœur de maman, appréciait beaucoup le jazz classique et à la création du festival de jazz Antibes Juan-les-Pins. Pendant des années, tous les ans, j'ai vu presque tous les concerts. J'ai eu la chance de voir Ella Fitzgerald, Miles Davis, Louis Armstrong, Oscar Peterson, Chick Corea, des gens très très différents dans tous les genres. Donc j'ai été influencée par ces musiques-là.
Et ça va vous nourrir, c'est ça, pour le reste de la vie. En même temps que vous alliez faire l'apprentissage du piano, tranquillement, il y a la guitare aussi, vous allez gratter un tout petit peu.
Oui, j'ai appris la guitare d'oreille, d'après ce que je connaissais du piano. Mais c'était surtout parce que ça se transportait plus facilement.
Oui,
c'était pour épater les copains et pour faire des chansons et pouvoir m'accompagner partout. D'ailleurs, quand j'ai commencé à Paris à faire du cabaret, il n'y avait pas des pianos dans tous les cabarets. Et je transportais ma guitare de l'échelle de Jacob à l'Écluse. Et j'ai commencé aussi à chanter accompagné par la guitare.
À la maison, on écoutait des Brassens, Béart. Est-ce qu'il y avait la chanson française qui jouait aussi?
Ah oui, on écoutait Brassens. Mon père était un fan de Brassens. Mon frère était un fan de Brel. Moi, c'était Barbara. Mais il y avait des disques. Maman, elle était vraiment admirative de Béco, Montand et Traîné. Donc, on avait vraiment beaucoup de chansons françaises.
Toutes les références étaient là.
Trois petites notes de musique on pliait boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi qui voulais oublier, un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, disait la rengaine, la la, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche, épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à reprendre à l'unisson. La la la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. La 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 la. Petite note de musique.
qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
Et trois petites notes de musique popularisées par Yves Montand, reprises cette fois-ci par Marie-Paul Bell. Et c'est à Nice, on a parlé que vous aviez beaucoup d'amis. Pendant cette période, vous allez vous lier d'amitié justement avec Michel Grisolia, qui va devenir votre premier et l'un de vos principaux paroliers.
Oui, très petit, parce qu'il était en sixième et en avance dans la même classe que Jean-Michel, que mon frère cadet. Et donc, on a commencé. C'était comme le frère jumeau de mon petit frère. Et ils étaient tout le temps ensemble. Et dès l'âge de 9-10 ans, ils commençaient à écrire des pièces de théâtre, des poèmes, des scénarios de films. Je veux dire, il était extrêmement doué. Il passait son temps au cinéma. Il avait une culture extraordinaire, très, très en avance sur son âge. Et donc, on a commencé à écrire des chansons. Oui, j'avais 9 ans.
Même si tu t'en vas de Paris, même si tu oublies que tu aimais le ciel gris, même si tu t'en vas de Paris, même si tu oublies que tu aimais la pluie, même si un jour tu réussis, même si à tes fenêtres le ciel n'est plus gris, même si tu as d'autres amis, même si Paris devient pour toi trop petit,
n'oublie pas, les boulevards, les travaux, les trottoirs, les détours, les retards, les coups de pompe, les coups de tête, les coups de cœur, les coups de brin. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, on est bien. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas le métro, les brouillards, les matins, les hasards, les bistrots, les pars-vite, les reviens, les je t'aime quotidien. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas qu'on est bien. Même quand tu me parles soleil, même quand tu as moins de courage que la veille, même quand tu t'habilles en silence, même quand tu prétends que tu n'as pas de chance, même si tu prends un raccourci, même si je préfère flâner sous le ciel gris, même si tu t'en vas de Paris, même si tu oublies que tu aimais la pluie, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas les problèmes, les fringales des fins de mois devant un café crème, les annonces, les adresses, les ça y est, les tant pis. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas notre vie. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas les dimanches, les conneries des copains, le climat des nuits blanches, les verres vides, les verres pleins, les cafards, les tendresses. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas ta jeunesse.
Sur la musique de Marie-Paul Bell, effectivement signée Michel Grisolia, avec la complicité de Françoise Malé-Joris, même si. Et vous, Marie-Paul, avant qu'on fasse comme l'anthologie de carrière, justement, quand on parle de paroliers qui vous ont accompagné toute votre vie, comme Gilbert Bécaud et Julien Clerc, vous êtes une fabuleuse compositrice, une mélodiste douée. Vous faites la musique de vos chansons, mais vous avez laissé à d'autres le soin de traduire votre univers intérieur en paroles. À la différence près des deux compositeurs qu'on vient de citer, qui vous arrive vous-même d'être parolière aussi, mais vous avez surtout laissé la place à des alter-ego magnifiques comme Michel Grisolière, Françoise Malé-Joris et récemment, Dominique Vaz, ils ont créé avec vous dans une osmose assez peu commune. Je crois que vous aimez que l'écriture des textes et de la musique se fasse simultanément.
Oui, absolument. Je n'aime pas les musiques récitatives. Donc, à partir de ce moment-là, pour que la musique chante et que la musique s'envole, je pars sur un départ de brouillon. Je n'aime pas que le texte soit figé et qu'on ne puisse pas bouger une virgule, parce que à ce moment-là, ça me restreint dans mon invention. Alors je pars sur une idée, je me laisse envahir par la musique qui arrive, et puis à ce moment-là, ça fait quelquefois des vers irréguliers. Donc je dois avouer que c'est plus difficile pour les auteurs que pour moi, parce que je leur dis par exemple au lieu d'un vers de 8 pieds, tu pourrais pas m'en mettre un de 13, et au lieu que ça finisse par I, tu me le fais finir par A. Donc des choses comme ça, donc quelquefois ils devaient renoncer à leurs idées pour pouvoir s'adapter à la musique, et ça donne l'impression que c'est fait par une seule et même personne.
Oui, l'osmose est assez magique dans votre cas.
C'est ce qui m'intéresse, parce que quand justement je n'arrive pas à exprimer un sentiment, eux le disent par les mots et moi par la musique. Mais quand eux ne peuvent pas dire par leurs mots quelque chose que je ressens intensément, alors là, eh ben, j'y vais avec des mots beaucoup plus simples, moins littérairement, mais j'écris des musiques, j'écris des paroles pour essayer de traduire ce que je ressens.
Quelquefois, vous avez écrit l'amorce de poèmes, de chansons, et c'est vos auteurs qui ont continué, qui ont poursuivi.
Oui, absolument, oui. Par exemple, pour l'impromptu de Schubert, ou pour « Dommage que j'aime pas le whisky, je me serais saoulé la gueule », j'avais commencé à écrire ça après une rupture sentimentale, donc après Françoise a continué. Oui, c'est très souvent, parce que moi, j'écris une strophe et un refrain, où je commence par une idée, puis après je suis bloquée, j'arrive pas à aller plus loin, alors souvent c'est arrivé, oui.
Elle est morte, la voisine, dans sa modeste cuisine, impeccablement cirée. On la connaissait très bien, on le supposait du moins, lorsque l'on a retrouvé dans un vieux cahier de toile noire, elle avait noté son histoire pour un inconnu qui la comprendrait. Mais le temps qu'on le trouve et le lise, la petite écriture grise s'est effacée avec son secret. Elle était veuve, dit-on, d'un médecin du canton, unanimement aimé. Sa tombe, elle allait chaque soir depuis 10 ans. Dans un vieux cahier de toile noire, avec des images dérisoires, elle avait voulu peindre leur amour. Il en reste quelques fleurs séchées, une larme délavée. Elle était belle, dit-on, lui était fidèle et bon, et banalement heureux. On ne les remarquait pas, maintenant qu'ils ne sont plus là, on voit qu'ils nous manquent un peu. J'ai voulu lire leur histoire, comprendre leur bonheur. discret. Mais le temps qu'on le trouve et le lise, la petite écriture grise s'est effacée avec leur secret.
C'est la chanson par laquelle je suis venu à Marie-Paul Bell. Ça s'appelle « La petite écriture grise » sur un texte de Françoise Malet-Joris, Michel Grisolia. La musique est de Marie-Paul qui s'accompagne ici au piano sur le disque « Un pas de plus ». Marie-Paul, vous n'avez pas au départ décidé « je vais faire une carrière en chanson ». Vous aviez fait une maîtrise en psychologie, je crois.
C'est ça, oui. J'ai fait la licence à Nice. Après, à la mort de ma mère, je suis allée faire mes deux certificats de maîtrise à Paris. J'aurais pu les faire à Aix, mais je voulais, parallèlement à cela, commencer les auditions dans les cabarets pour essayer de voir si je pouvais faire quelque chose dans la chanson. C'était dans ma tête. Et donc, j'ai déposé mon sujet de thèse de doctorat, mais je ne l'ai jamais soutenu.
Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense qu'il y a eu comme une espèce de pari avec des amis de la fac qui vous ont conduite à un concours télévisé.
Ah oui, ça c'était avant, oui, c'est ce qui m'a mis en tête de faire de la chanson, oui, parce que j'étais en licence à Nice et il y avait un concours télévisé Télé Monte Carlo, c'était un concours, si vous voulez, un peu comme la Nouvelle Star ou la Starac aujourd'hui, et c'était le public qui votait, alors il n'y avait pas de SMS à ce moment-là, donc il n'y avait pas de portable, donc les gens se réunissaient dans des bars disséminés de Marseille à Monte Carlo et regardaient la télé dans les bars et jugeaient et donnaient leur avis. Et le directeur du bar téléphonait au studio en disant « Voilà, ici à Marseille, on vote pour un tel. Ici à Cannes, on vote pour un tel, etc. » Et donc, de semaine en semaine, les candidats étaient éliminés ou pas. Alors, évidemment, il y avait des sélections qui étaient faites pour amuser les gens. Il y avait des gens très, très ringards. Et donc, cela a été éliminé souvent. Mais ça mettait un peu d'animation dans l'émission. Et donc, j'ai franchi toutes les épreuves semaine par semaine, si vous voulez, les éliminatoires. Et je suis arrivée en grande finale à la fin de l'année. Et là, on était jugé par un jury professionnel, que des gens de métier dans un théâtre. Et donc, j'ai gagné ce concours. Et le prix de ce concours m'a valu la joie de connaître le Québec, puisque le prix de ce concours était d'enregistrer un premier 45 tours, on disait ça comme ça à ce moment-là. C'était un petit vinyle avec deux titres. Et en même temps, on gagnait le voyage pour le Québec, où on avait le droit de participer à des émissions de télévision qui étaient tournées à Montréal. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma première ou deux ou trois télés comme ça à l'époque, parce que j'avais gagné ce concours. Oui.
Et ce concours, vous l'aviez gagné. La dernière chanson que vous aviez interprétée, c'était « Le plat pays » de Brel. À l'époque, vous étiez plutôt téméraire.
Mais j'ai toujours été un peu en contradiction avec le paysage musical de l'époque, parce que c'est vrai que c'était l'époque yéyé, donc je chantais Brel, je chantais une chanson que j'ai même encore chantée dans mon dernier spectacle, qui c'est une chanson de Jean Arnulf qui s'appelle Point de vue, que j'ai adoré et qui est tout à fait d'actualité encore aujourd'hui. Et si vous voulez regarder, quand La Parisienne est sortie en 76, c'était la grande mode du disco, la grande mode c'était Gloria Gaynor, Will Survive,
oui.
C'est ça, et donc je veux dire, il y avait que du disco sur toutes les radios et moi je faisais « Je ne suis pas parisien ». On disait « Qu'est-ce que c'est que ce diablotin qui saute en l'air et qui nous chante un peu à la manière d'Offenbach ?» C'était un peu saugrenu, donc c'est ça qui a plu, je pense.
Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait griller, m'en fait griller. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis.
vivante en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, je ne suis pas masochiste, ça existe, pour réussir mon destin, je vais voir le médecin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, oh dis le psychanalyste, que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Mais si, me dit le docteur en se rhabillant, après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin, je fais partie de l'élite, ça va vite, et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vante, en serrant très fort la main du voisin, me sachant original, je cavale, j'assume ma libido, je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne, je me surmène, et je connais la détresse, et le cafard, et le stress. Enfin à l'écologie, je m'initie, et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons.
Il fallait le faire et elles l'ont fait. Marie-Paul Bell, Françoise Malet-Joris, avec le concours de Michel Grisodia, La Parisienne, cet immense succès de carrière de Marie-Paul Bell. Et là, vous allez vous retrouver à Paris, donc vous allez fréquenter assidûment les mêmes cabarets que Barbara sur la rive gauche, l'échelle de Jacob, l'Écluse.
Oui, parce que j'avais une admiration sans borne pour Barbara et Brel. Et c'est eux qui m'ont donné l'idée que c'était peut-être possible de suivre une route comme la leur. Et donc, je me suis dit, il faut que j'auditionne dans ces cabarets-là. Et j'ai eu la chance d'être acceptée tout de suite parce que j'avais un univers un peu différent des autres.
Ça va s'enchaîner très rapidement dans le début de votre carrière. Il y aura ces spectacles à l'Écluse. Vous allez rencontrer en 70 l'écrivain Françoise Malet-Joris qui va devenir votre parolière, votre confidente.
Oui, et même l'amour de ma vie, on peut le dire. J'avais une admiration sans borne. J'ai été très, très séduite par son mode de vie. Elle vivait dans un grand appartement où il y avait des artistes. J'avais une amie de Nice que j'ai retrouvée, et c'est comme ça que je l'ai rencontrée, que j'ai retrouvée à Paris, et qui avait installé son four à céramique dans une des pièces de la maison de Françoise Malet-Joris. C'était un peu la maison de papier. Donc, il y avait un danseur, un photographe. Son mari était peintre, ses enfants était musicien, je veux dire, il y avait chaque copain avait une activité artistique, donc on vivait un peu comme au temps du compagnonnage du Moyen-Âge,
ben oui,
si vous voulez.
Oui.
Donc c'était très très intéressant, chaque artiste avait le regard sur l'activité des autres. Donc j'ai beaucoup progressé, on faisait des chansons tout le temps. Donc j'ai rencontré Françoise et puis j'ai peut-être aussi fait un transfert maternel sur elle puisque je venais de perdre ma mère et que elle était très maternelle, très enveloppante et très séduisante. Elle avait un charme fou, elle avait l'aura du succès, elle était très belle. Donc tout ça s'est mélangé et vraiment, comme vous le dites, je suis tombée en amour pour elle, et ça a duré 11 ans et toute la vie finalement, parce qu'après ça s'est transformé en une amitié tendre,
oui,
fulgurante et formidable jusqu'à sa mort.
Et Et il vous arrivait très souvent à cette époque-là d'écrire à trois, donc avec Françoise Malégoris et aussi Michel Grisolia. Et c'était comme un triumvirat, là, vous faisiez des choses ensemble.
Ah oui, on a toujours tout signé ensemble. Dès que j'ai commencé à écrire des chansons avec Françoise, je lui ai présenté Gris-Gris, qui était à Paris aussi, enfin Michel Grisolia. Et on se réunissait dans notre maison, une maison qu'on avait achetée près de Compiègne, dans l'Oise, très belle maison, dans un petit village qui s'appelait Bulle, c'était mignon, comme des bulles de savon, et on se réunissait là, et on faisait des chansons, et on s'appelait entre nous le trio infernal, du même titre que le film à succès, qui avait eu tellement de succès à l'époque. On s'était fait faire des t-shirts avec Trio Infernal et tout ça. Et on s'amusait beaucoup, oui.
Et ça va vous conduire en 73, ça va être un premier Bobino. Et à suite à ce Bobino, vous allez faire tout de suite une très grande télévision à l'époque. C'était le plateau de Philippe Bouvard, qui demanda à ses invités de respecter une règle. La règle, c'était de chanter qu'une seule chanson. Il y avait un artiste qui avait outrepassé cette règle, qui vous disait « Moi, je ne veux pas chanter qu'une chanson. » Et on vous a demandé de le remplacer.
Oui, c'était incroyable. Je venais de passer l'audition et je rentre à la maison et le téléphone sonne. On me dit « C'est pas dans un mois que vous allez passer, c'est ce soir. Revenez au studio. » Donc, je suis revenue et on m'a dit alors, j'ai enregistré une chanson. On m'a dit « Et puis, Philippe en a fait chanter une deuxième, je pense que c'était pour énerver sûrement l'artiste qui avait planté l'émission et qui devait être devant sa télé pour dire voilà, j'ai une inconnue complète et je lui fais faire deux chansons et toi qui as un nom, et ben attends, tu n'es pas.
Léopoldine, la sœur de Mozart. Et comme la renommée n'est pas un boomerang, je n'aurais pas dû le laisser signer Wolfgang. Wolfgang et moi, ça n'allait pas tout seul. Il était fort en gueule, moi sur la clé de fa 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 fa. J'étais forte en tête. Aujourd'hui, sous son nom, mes œuvres sont jouées. Tout ça parce que je n'osais pas lui dire non quand il passait son temps à jouer à la poupée, tandis que j'écrivais ses symphonies. Wolfgang et moi, c'était comme chien et chat. Il faisait le joli cœur avec mes doigts de Wolfgang et moi, c'était pas rigolo. Et de nos éclats de voix, il n'a qu'y Figaro. Et patati patati patata. Papa recevait des marquises au clavecin. Wolfgang leur racontait des bluettes et des trucs. Ses fourberies à lui valaient 200 scapins. Et moi je me faisais suer à finir la marche turque. Je dis que le requiem, il est de Beethoven. De Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven.
Wolfgang et moi, une chanson de Michel Grisolia, Françoise Malégoris, sur une musique de Marie-Paul Bell.
Philippe Bouvard m'a vraiment donné un coup de pouce extraordinaire à cette époque, parce que je veux dire, du jour au lendemain, j'ai eu toutes les couvertures, enfin, les journaux télévisés, les magazines de télévision voulaient m'interroger pour me demander où était mon album, dans quelle maison disque j'étais. J'avais pas du tout d'album, j'avais pas de maison disque, je chantais à l'Écluse tous les soirs, je comprenais pas ce qui se passait, je venais de faire Bobino, mais c'est tout, quoi, je n'étais pas du tout médiatisé, oui, donc oui. C'était une grosse surprise. Donc la même année, après, au mois d'octobre, septembre, j'ai sorti un 30 cm, on appelait ça comme ça, avec 12 titres, et c'était mon premier album.
Oui, qui a reçu le prix de l'Académie Charles Cros en partant.
Oui, 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 c'est vrai.
Loin, il est un pays qui me fait des signes. Loin, il y a des regrets là-bas dans les vignes. Loin, il y a la maison, le lit et la chambre. Loin, la belle saison, c'est déjà septembre.
Toujours du même trio gagnant, la chanson Loin, Michel Grisolia, Françoise Malet-Joris et Marie-Paul Bell.
J'ai été soutenue par France Inter pour les deux premiers albums, et puis après, quand j'ai refait un deuxième Bobino en 75, Monique Lemarcy, qui était la programmatrice de RTL à ce moment-là et qui faisait le nom des artistes, on peut dire, hein, parce qu'à partir du moment où on était programmé avec intensité sur RTL ou Europe 1, il n'y avait que deux radios à ce moment-là vraiment importantes en France, et bien si on était soutenu par Monique Lemarcy et par RTL, et bien on jouait dans la cour des grands. Donc Monique Lemarcy est venue me voir à Bobino, et dans la loge elle a dit: est-ce que je peux prendre le train en marche? Et j'ai dit: montez donc. Et après, du jour au lendemain, voilà, je suis rentrée dans les hits parades, et c'était vraiment une époque très très intense pour moi.
À la gare du Maine Montparnasse, il m'a paru, elle est naïve, je me mis au
autres cieux. On a démoli Montparnasse, mais nous n'y allions déjà plus. La fumée bleue des trains qui passent emporte mes amours perdus. Il était beau, je l'aimais bien.
Le goût de partir en voyage avec Michel Grisolia, Françoise Malé-Joris et Marie-Paul Bell qui fait la musique de Trans-Europe Express. En 74, c'est votre album Café Renard qui va recevoir le prix de la chanson française à Spa en Belgique.
Eh oui, et c'est grâce à ça que je vous ai connu. C'est grâce à ça que je suis venue à Montréal. C'est grâce à ça que j'ai été chanter en Suisse, en Belgique, au Québec. Et que c'est grâce à ça que j'ai connu Edith Butler, je veux dire, qui est devenue une amie depuis toutes ces années. Et j'ai vraiment, j'ai toujours été très bien accueilli, mais même quelquefois mieux qu'en France,
oui.
Dès que j'ai passé les frontières, parce que je me suis rendu compte que les gens qui parlent le français à l'étranger aiment beaucoup plus la langue que quelquefois que les Français eux-mêmes, parce que nous, en France, il y a beaucoup de chansons chantées en anglais, on défend beaucoup moins la langue française que vous le faites, et ça c'est très agréable, je veux dire, on se sent très aimé, ça c'est sûr.
Il est 5h30, il est encore trop tôt, et dans les rues il vente, mais j'aime mieux le chaud. Lentement je pénètre dans le café Renard, et je me sens grenelle. De marbre, des verres plein le dos, craque comme un vieil arbre quand on s'y appuie trop. Au plafond de vieux lustres ont des lueurs fanées. Là-bas derrière la vitre, un tout petit monsieur s'amuse à faire le pitre en roulant de gros yeux. Devant moi, une femme belle comme un camé revit de sombres drames et n'ose pas pleurer.
L'aurez deviné ou reconnu au Café Renard, chanson de Michel Grisolia, Françoise Mallet-Joris, qui en signe les textes et sur la musique de Marie-Paul Bell.
Et voilà, c'est déjà tout pour ce premier de trois épisodes de Qui chante au bout du fil avec Marie-Paul Bell. La suite de ses confidences téléphoniques et des chansons de sa vie vous sera présentée lors de nos deux prochaines émissions. Pierre Degagné et Daniel Fortin étaient à la régie technique de ce programme, je les remercie. J'étais avec bonheur à la recherche, conception, réalisation et microphone. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Allez, salut. Ici André Roy.